Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL, il est 10h. Les informations, c'est avec vous, Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Flavie, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. La stupeur en Grande-Bretagne au lendemain de l'attentat meurtrier au couteau dans le centre de Londres. L'assaillant abattu par la police avait été condamné en 2012 pour terrorisme et avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Dans l'actualité aussi ce matin, le blocage des dépôts pétroliers plus que jamais d'actualité dans l'Ouest. Les sites du Mans, de Brest, de Lorient et de Verne-sur-Sèche près de Rennes sont touchés. Une marche silencieuse aujourd'hui à Mirepoix, 15 jours après l'effondrement du pont sur le Tarn. Les habitants rendront hommage aux deux victimes de l'accident. Votre générosité sollicitée tout le week-end dans les grandes surfaces. La Banque Alimentaire organise sa grande collecte nationale de dons dans 8000 magasins. Et puis les sports, l'OM plus que jamais dauphin du PSG après sa victoire 2-1 sur Brest. Tirage au sort, a priori difficile ce soir pour l'équipe de France pour l'Euro 2020. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
La pluie arrive par l'ouest.
Et elle est déjà là, il pleut du Finistère jusqu'au département des Landes ce matin. Alors c'est pas forcément partout et pas en continu, mais ces pluies vont s'intensifier cet après-midi, vont devenir plus régulières. Ça va concerner toute la façade ouest avec des vents qui souffleront entre 50 et 70 km/h en pointe à l'avant. Tout cela sur une très large moitié est, un temps ensoleillé, même si ce sera un peu plus nuageux avant ce soir entre le nord, le bassin parisien ou encore les régions centrales. Les températures, elles ont amorcé la descente. 6 degrés à Amiens cet après-midi, 8 à Paris et au Havre, 9 à Orléans et Angers, 10 degrés sur Rennes, Tours, Auxerre, 11 à Grenoble, 14 à Carcassonne et 19 à Menton.
Merci Valérie.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
L'assaillant du London Bridge n'était pas un inconnu, et c'est peu de le dire. L'homme, âgé de 28 ans, a tué deux personnes avec un couteau hier dans ce haut lieu touristique de la capitale anglaise avant d'être tué par les forces de l'ordre. Marie Billon, vous êtes en direct de Londres pour RTL. Bonjour.
Bonjour.
Les autorités ont révélé cette nuit que le forcené avait déjà été condamné à de la prison il n'y a pas si longtemps, et déjà pour terrorisme.
Oui, Ousmane Khan, 28 ans, avait été condamné à 16 ans de prison en 2012. Il faisait partie d'un groupe de 9 hommes reconnus coupables d'avoir voulu poser une bombe à la Bourse de Londres. Ils auraient aussi tenté d'établir un camp d'entraînement terroriste au Pakistan pour y recruter des Britanniques. Ousmane Khan faisait partie de trois hommes du groupe, considérés par le juge comme les djihadistes les plus endurcis. Parmi les 9 hommes, avant son arrestation en 2010, le jeune homme entretenait apparemment des liens avec une organisation terroriste, même si le gouvernement n'a pas voulu confirmer s'il s'agissait d'Al-Qaïda. Ousmane Khan, en tout cas, a été remis en liberté conditionnelle en décembre 2018.
Alors justement, Marie, Boris Johnson a tenu à s'exprimer peu avant une réunion en urgence d'un comité intergouvernemental de sécurité. Le Premier ministre a voulu faire part de sa désapprobation.
I have long argued.
Je le dis depuis longtemps, c'est une erreur de permettre la libération anticipée des criminels violents. Il faut perdre cette mauvaise habitude. C'est très important. Les criminels dangereux doivent purger leur peine, et en particulier les terroristes.
Boris Johnson, le Premier ministre chez nos confrères britanniques de Sky News. Marie, expliquez-nous maintenant comment un terroriste qui a écopé de 16 ans de prison peut se retrouver aussitôt dehors.
Eh bien, c'est l'application du système automatique en Grande-Bretagne. Tous les criminels, sauf les violeurs et les meurtriers, ont automatiquement droit à une remise en liberté conditionnelle à la moitié de leur peine. C'est exactement le cas d'Ousmane Khan, puisqu'il avait été arrêté en 2010, libéré fin 2018. Il avait passé exactement la moitié de ses 16 ans derrière les barreaux. La presse précise qu'il portait hier un bracelet électronique. Il aurait aussi respecté toutes les conditions qui lui étaient imposées. Il aurait même prévenu les autorités de sa présence à cette conférence sur la réhabilitation des prisonniers qui se tenait près de London Bridge hier, là où l'attaque a eu lieu, si bien que les autorités n'avaient aucun élément laissant penser qu'ils préparaient une attaque. Alors le système de remise en liberté conditionnelle automatique a déjà été remis en cause par le Premier ministre Boris Johnson, on l'a entendu, il a répété cette nuit ce qu'il avait déjà dit cet été, il veut y mettre fin. La campagne électorale reprend donc aujourd'hui pour les élections du 12 décembre et le thème de la sécurité s'invite dans un scrutin qui se concentrait jusque-là sur le Brexit.
Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres pour RTL. Et puis autre attaque au couteau hier à la aux Pays-Bas, un homme a blessé 3 jeunes mineurs dans le grand magasin d'une rue commerçante. La police a néanmoins écarté la piste terroriste. À 5 jours de la grève contre la réforme des retraites en France, un nouveau front de contestation vient de s'ouvrir face au gouvernement. Les entrepreneurs de travaux publics protestent contre la suppression annoncée de leur niche fiscale sur le gazole routier. Ils ont donc décidé de bloquer plusieurs dépôts pétroliers de l'ouest de la France. Brest, Lorient, Le Mans et Verne-sur-Sèche près de Rennes sont touchés. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
La détermination des occupants de ces 4 sites ne faiblit pas.
Et le mouvement pourrait bien s'étendre à d'autres régions en début de semaine, notamment en Touraine. En attendant, dans l'ouest du pays, la mobilisation s'est organisée. Tracteurs, pelleteuses et camions entravent les entrées des 4 dépôts bloqués. Et malgré une nouvelle nuit passée dehors, devant le site de Verne-sur-Sèche, la motivation de Sonia Bougette et de ses confrères reste intacte.
On a passé la nuit sur site dans nos véhicules. Il y a, je pense, 50 de pelles et de tractopelles devant le dépôt. Ça n'a pas diminué, au contraire, on est plus aujourd'hui. Les salariés arrivent les uns après les autres. Il y en a qui ont commencé à arriver hier soir et puis il y en a 2 qui vont arriver dans la journée. Ils sont motivés, il faut que la loi soit supprimée, donc ils n'ont plus rien à perdre de toute façon. On lâchera pas.
Les artisans du BTP exigent désormais une rencontre avec le Premier ministre, Édouard Philippe. Ils seront en attendant reçus par la préfète d'Ille-et-Vilaine mardi. D'ici là, ils l'assurent, ils ne bougeront pas des dépôts.
Merci beaucoup Marion Ferrer. En bref, un coup d'arrêt au travail de nuit dans les magasins de proximité. Le tribunal de grande instance de Nanterre a interdit à Monoprix d'employer des salariés après 21 heures sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée. L'enseigne ouvre déjà 129 magasins sur ses 289 jusqu'à 22h. RTL 10h et 6 minutes. Une foule immense est attendue ce matin dans la petite commune de Mirepoix-sur-Tarn, au nord de Toulouse. Il y a 15 jours, l'effondrement du pont qui enjambe le fleuve avait causé la mort d'une adolescente de 15 ans et du chauffeur du camion à l'origine de l'accident. En hommage donc à ces 2 victimes, une marche silencieuse est organisée dans une petite demi-heure. Patrick Tégéro, vous êtes sur place en direct. Bonjour.
Bonjour.
L'initiative est venue des enfants du village.
Oui, l'école du Soulèdre sera d'ailleurs le point de départ de ce moment de recueillement. Ce sont les enfants, en effet, de l'école qui en ont eu l'initiative, plus marquée encore que les adultes. Ils ont dit, ils ont dessiné ou ils ont écrit leur peine, car Lisa, la petite victime, 15 ans à peine, était une enfant, elle aussi. Les enseignants ont demandé au maire l'autorisation qui leur a été accordée, bien sûr, car le village et les alentours ont été très marqués par cette catastrophe. Tous se disent, on aurait pu y être, on aurait pu en être victime. Et sans esprit de polémique, car ce sont d'abord 2 familles qui sont meurtris à tout jamais. Le cortège traversera le village pour s'arrêter à quelques dizaines de mètres de ce qui reste du pont, car les berges menacent de s'effondrer, et on déposera devant les barrières de sécurité des roses blanches pour Lisa, morte noyée dans la voiture de sa mère, et des roses fuchsia pour Damien, qui conduisait cet attelage de 52 tonnes sur le pont limité à 19.
Merci beaucoup Patrick Tégéro en direct de Mirepoix-sur-Tarn pour RTL. Après la pause, une journée importante de collecte pour la Banque Alimentaire, mais aussi pour l'équipe de France de football qui connaîtra ses adversaires à l'Euro 2020 tout de suite.
RTL Matin.
Plus loin. RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
10h et 9 minutes. Ils seront 130 000 bénévoles vêtus de leur traditionnel gilet orange. Vous les verrez certainement si vous faites vos courses, puisqu'ils seront présents dans 8 000 supermarchés. Il s'agit des membres de la Banque Alimentaire qui lance jusqu'à demain soir sa grande collecte nationale de dons. Objectif, récolter plus de 11 000 tonnes de denrées, soit 24 millions de repas à destination des plus pauvres. Selon Laurence Champier, la directrice générale de l'association La Générosité du Grand Public, est plus que jamais nécessaire.
C'est important de donner parce qu'effectivement, ça représente 13% de nos approvisionnements aujourd'hui. Et dans ces 13%, nous avons des produits, ce qu'on peut appeler fonds de placard. On a vraiment besoin d'huile, de conserves de poissons, de fruits, de légumes, du café, du thé, du chocolat, que l'on n'a pas lorsqu'on fait la ramasse quotidienne auprès des supermarchés, hypermarchés, auprès des donateurs industriels. Ce sont des produits de tous les jours dont on a besoin et qui permettent surtout aux associations, après, de distribuer une alimentation plus diversifiée, de qualité, et qui répond évidemment aux besoins des personnes qui sont accueillies. L'année dernière, on a récolté 23 millions de repas. Il faut que les gens donnent. Il faut comprendre que, effectivement, sans cette collecte, on ne pourrait pas nous mener notre action tout au long de l'année. Si on n'a pas ce fonds de placard, on ne peut pas aider les associations et elles ne peuvent pas aider les personnes.
Laurence Champier, la directrice générale de la Banque Alimentaire au micro RTL de Nicolas Burnan. Les sports à présent avec l'OM qui enchaîne une 4e victoire consécutive. En ouverture de la 15e journée de Ligue 1, Marseille a dominé Brest 2-1. Hier, les Bretons ont égalisé à la 88e, mais Radonjić a marquer le but de la délivrance dans la minute suivante. L'OM revient provisoirement à 5 longueurs du PSG. Suite des rencontres aujourd'hui avec Strasbourg-Lyon à 17h30. Les autres matchs à vivre dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France, auquel participera Bichente Lissarassou de 20h à 21h. Notre consultant équipe de France reviendra sur le tirage au sort de l'Euro 2020 qui aura lieu à 18h30. Ce sera en direct dans On refait le match avec Denis Balbir. Les Bleus, on le sait, affronteront forcément l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie. L'équipe de France saura aussi dans quelle ville elle jouera son premier tour, avec plusieurs conséquences, Nicolas Georgerot.
Et parmi les décisions à prendre pour l'encadrement de l'équipe de France, il y a celle primordiale du camp de base. Rester dans les Yvelines ou bien s'installer chez l'un de nos voisins. Didier Deschamps, le sélectionneur, a une préférence. Il le disait sur RTL il y a quelques jours.
Je pense sincèrement que l'option la plus rationnelle aujourd'hui, mais j'ai pas tous les éléments, c'est de garder Clairefontaine dans un premier temps. On étudiera après les déplacements plus ou moins longs.
Si la France tombe dans le groupe A, obligée d'aller jouer à Bakou à 4500 km de Paris, une réflexion s'engagera. Sinon, c'est bien le château qui accueillera les Bleus avec un goût d'Euro 2016 à la maison. Et dans ce cas précis, selon nos informations, les Bleus effectueraient un stage de quelques jours en France ou à l'étranger lors de la préparation pour casser la routine. Didier Deschamps souhaiterait 3 matchs amicaux plutôt que 2 avant l'Euro. Mais tout dépendra de la date d'entrée en lice dans la compétition.
Nicolas Georgerot, la 16e journée de Ligue 2 et Lorient qui repasse en tête grâce à son succès sur Grenoble 2-1 alors que Lens s'est incliné 2-0 à Valenciennes. Sochaux accueille 3-4. 14h30. Un mot de handball, début aujourd'hui des championnats du monde au Japon. Les Françaises tenantes du titre et championnes d'Europe affrontent la Corée du Sud en ce moment même. Actuellement, 6-4 pour les Françaises. Les courses, elles ont lieu cet après-midi à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 12, le 9, le 2, le 10, le 8, le 13, l'As. Et la dernière minute, le numéro 10, la course du Quintet à suivre sur 6play.fr à 13h47. RTL, 10h et 12 minutes. Il est grand temps de repartir à Angoulême, retrouver Vincent Perrot avec les Angoumoisins. C'est alors, comme ça qu'on appelle les habitants.
Alors exactement, mais pas que, parce que figurez-vous Yann que là je suis avec Pipo qui est antillais. Je suis sur l'étal des saveurs antillaises et on est en train de déguster, alors avec beaucoup de modération, vous nous connaissez, hein, le Pipo Punch. C'est un petit punch assez spécial. Qu'est-ce qu'il y a Pipo dans ce punch là?
Alors il est composé de 3 nectars de fruits, dont la goyave, la mangue, ce qui fait qu'il a cet aspect velouté et qui a macéré pendant un mois.
Voilà. Bon, moi, j'ai quand même une émission à faire. Je vais y aller doucement.
Il n'y a pas que du fruit, Vincent, aussi.
Mais il n'y a pas que du fruit. Croyez-moi qu'on sent bien le goût du fruit, entre autres.
Parfait.
Et du punch aussi.
À tout à l'heure, 11h.
À tout à l'heure, Yann. Merci.